Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
On a vu l'assaillant avec le couteau et entendre le policier qui lui disait « Jetez votre couteau, jetez votre couteau ».
Et c'est un drame inédit qui a touché aujourd'hui la préfecture de police de Paris. 4 policiers tués par un agent administratif de la préfecture qui n'avait jamais fait parler de lui, un homme qu'il côtoyait tous les jours. Il a fini lui aussi par être abattu. Le récit de Guillaume Bié dans un instant, les témoignages et le profil de l'assaillant avec Salomé Legrand, dossier complet. Le grand acte, le grand débat, acte 2. Emmanuel Macron est à Rodez face à 500 Français pour parler retraite. Le président qui reprend le format utilisé pour répondre à la crise des gilets jaunes. Des milliers d'enseignants se sont rassemblés aujourd'hui. 8 jours des obsèques de Christine Renon, cette directrice qui s'est suicidée dans son école à Pantin après avoir dénoncé ses conditions de travail dans une lettre.
Christine n'était pas fragile. Non, Christine n'était pas dépressive, mais énergique. Ils nous l'ont détruite.
On entendra les profs, on écoutera également l'inquiétude des viticulteurs alors que Washington a annoncé son intention de frapper de tarifs douaniers punitifs plusieurs produits européens, notamment le vin. Et puis des larmes également ce soir, celle de Kevin Mayer.
La déception est énorme, ce décathlon était un enfer honnêtement.
Kevin Mayer contraint à l'abandon sur le décathlon. Cruelle désillusion pour le champion du monde en titre et détenteur du record du monde. Incapable de s'élancer, il a dû renoncer à franchir une barre à la perche. Le temps demain, on aura un tout petit peu moins froid, un tout petit peu moins seulement. Encore quelques pluies, ne manquez pas les prévisions complètes de Valérie Darmon à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, 22h20, vous avez rendez-vous avec l'Interview Éco. Ce soir, Maud Descamps reçoit le président directeur général de Rossignol, Bruno Cerclet. Rossignol, leader mondial du ski qui souhaite devenir une marque globale.
Europe 1.
Et hier, dans ce journal, nous vous parlions des policiers qui avaient manifesté en masse pour dire le malaise de leur profession et alerter sur leurs conditions de travail. Aujourd'hui, ce drame au sein même de la préfecture de police de Paris sur l'île de la Cité, lieu hautement symbolique. 4 morts, une femme et 3 hommes tués à l'arme blanche par un employé qui a finalement été abattu. Drame qui s'est déroulé à la mi-journée, Guillaume Bié.
Et à 13h, très exactement, le drame s'est déroulé au sein de la préfecture de police, au premier étage, dans les locaux de la DRPP, la Direction du Renseignement Parisien. Un homme de 45 ans, un policier, agent administratif, qui travaille dans ce service, a sorti un couteau de cuisine, une lame en céramique, et il a mortellement touché un premier fonctionnaire de police. Dans la foulée, il tue 2 autres policiers dans un bureau voisin, toujours au premier étage. Puis il prend la fuite, il descend l'escalier C de la préfecture de police où il croise 2 femmes, 2 policières qu'il va également poignarder. L'une a succombé à ses blessures, l'autre a été transportée dans un état grave à l'hôpital. Bilan, 4 morts, 1 blessé grave. L'agresseur arrive enfin dans la cour intérieure de la préfecture et là, c'est un jeune gardien de la paix qui intervient tout juste 1 an qu'il est dans la police. Il voit le meurtrier, il lui ordonne de lâcher son couteau, mais l'agent n'obtempère pas. Alors le jeune policier ouvre le feu avec son fusil mitrailleur et le tueur est touché d'au moins 1 balle en pleine tête. Fin de son périple sanglant. Une attaque interne à la préfecture de police entre fonctionnaires, 5 morts au total. C'est un drame inédit dans l'histoire de la police parisienne.
Un récit signé Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1 et on apprend à l'instant que la policière hospitalisée a été opérée et qu'elle est désormais hors de danger. Et je vous propose maintenant d'écouter cet employé de la préfecture de police de Paris. Youssouf a été témoin de la scène.
Moi, j'étais dans mon bureau en train de manger, juste au moment où j'ai entendu des cris d'une femme. Et en ce moment, avec ma responsable hiérarchique, on s'est dirigé vers la fenêtre. C'est au même moment qu'on a vu l'assaillant avec le couteau et entendre le policier qui lui disait « Jetez votre couteau, jetez votre couteau ». Il lui a dit, il a fait la sommation 2 fois. Donc, en ce moment, il s'est précipité vers le policier, il s'est dirigé vers le policier. C'est en ce moment que le policier a tiré. Quand il a tiré, il était à terre. Il ne pouvait rien faire. On est sous le choc parce qu'on ne s'y attendait pas. Et ce soir, je peux vous dire qu'on a été sous le choc.
Youssouf, employé de la préfecture de police de Paris, témoignage recueilli cet après-midi par Jean-Jacques Herry. Alors Salomé Legrand, l'enquête commence tout juste évidemment, on ne sait toujours pas ce soir ce qui a poussé cet employé de la préfecture de police à s'en prendre à ses collègues. Quel est son profil Salomé ?
Eh bien, il s'agit d'un informaticien employé au sein du service de renseignement de la préfecture de police de Paris. Malentendant, âgé de 45 ans, il travaillait dans la police depuis 20 ans. Il était originaire de Fort-de-France, marié depuis 2014 et converti à l'islam depuis 2 ans. Le mobile de cette attaque reste extrêmement flou. Un différend professionnel a très vite été évoqué, mais les vérifications sont encore en cours, notamment une perquisition menée par la BRI chez lui dans le Val-d'Oise. Sa femme femme a été placée en garde à vue.
Les précisions de Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Très peu de temps après ce drame, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Christophe Castaner qui a été rejoint par le Premier ministre et par Emmanuel Macron. L'exécutif venu réconforter les policiers et tout le personnel de la préfecture de police de Paris, fortement très affecté par ce drame. Évidemment, comme vous avez pu le constater, Jeanne Bergaoui aux abords de cette préfecture de police.
Effectivement, cette attaque inédite suscite une très grande émotion, une incompréhension surtout. Au moment du drame, à 13h, il y avait du public, des visiteurs venus effectuer des démarches administratives, mais en majorité des fonctionnaires et des personnels de la préfecture de police. Ils ont d'abord été confinés puis fouillés avant d'être autorisés à sortir au compte-gouttes par les ponts de l'île de la Cité, le visage marqué, le regard fuyant. Une attaque au sein de la maison, à l'intérieur même de la préfecture de police, c'était impensable pour Roger qui y travaille.
Moi j'ai vu les gens courir dans tous les sens, il y a des gens paniqués parce qu'il y a eu quand même des morts. Le travail c'est un lieu sûr, vous voyez, c'est un lieu sécurisant. Et effectivement, si un tel acte arrive, c'est sûr que c'est très traumatisant.
L'assaillant, ce collègue, n'avait jamais fait l'objet d'un signalement. C'était un fonctionnaire modèle, explique Loïc Travers, secrétaire national Île-de-France du syndicat Alliance. Alors cet acte, cette tragédie, dit-il, ça va marquer les mémoires. C'est donc un choc pour toute la corporation.
C'est forcément une atmosphère de chaos à partir du moment où ce que l'on vit habituellement sur le terrain se déroule dans une enceinte policière. C'est toujours effectivement particulier et c'est forcément choquant. Donc j'imagine que les collègues qui ont vécu ça de près s'en souviendront et ça va malheureusement marquer à vie leur carrière.
Des fonctionnaires encore ce soir traumatisés. Pour les accompagner, la préfecture de police a mis en place une cellule psychologique.
Un reportage signé Jeanne Bergaoui. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce drame qui s'est donc déroulé à la mi-journée à la préfecture de police de Paris.
Europe 1, le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Il est 22h06, merci d'écouter Europe 1. Emmanuel Macron, on le disait, s'est rendu cet après-midi à la préfecture de police de Paris. Il a néanmoins maintenu son déplacement ce soir à Rodez, dans l'Aveyron, pour un grand débat sur les retraites. En préambule, le président a rendu hommage aux policiers tués et souhaité une minute de silence. Avant donc de dialoguer avec les 500 personnes présentes, débat qui se poursuit. Le président qui reprend donc la formule rodée en pleine crise des Gilets jaunes pour défendre, expliquer et convaincre sur sa réforme des retraites.
Le système dans lequel je voudrais qu'on puisse entrer, c'est un système, comme je l'ai dit, qui reste un système universel, et de solidarité et de répartition. Et je crois que ce système, ce que nous voulons faire avec ça, c'est d'abord le construire collectivement par ce débat, pouvoir ajuster les choses pour répondre aux angoisses, aux interrogations, aux préoccupations, le faire au bon rythme, mais c'est retrouver aussi la promesse originelle de 1945. C'est-à-dire celle d'un vrai système universel où les travailleurs payent pour les retraités, et de ne plus avoir une distinction, si je puis dire, entre des catégories différentes.
Emmanuel Macron ce soir à Rodez au micro Europe 1 d'Adrien Beck. Dans le Jura, des collégiens qui participaient à une épreuve sportive, un cross dans la commune de Morbier, ont été intoxiqués. Une quinzaine ont dû être pris en charge, dont deux en urgence absolue. Mais on apprend que le pronostic vital d'une collégienne de 14 ans n'est plus engagé ce soir. C'est ce que nous dit la préfecture du Jura. Tous ces jeunes ont été pris de malaise et de convulsions après être passés au stand de ravitaillement. Des enseignants et des directeurs d'école ont manifesté aujourd'hui à Bobigny devant les locaux de l'éducation nationale pour rendre hommage à Christine Renon. C'est cette directrice d'école qui s'est donnée la mort sur son lieu de travail en Seine-Saint-Denis, à Pantin. Dans un courrier, elle mettait en cause l'éducation nationale et ses conditions de travail, évoquant son épuisement, sa solitude, l'accumulation de tâches chronophages et des réformes incessantes et contradictoires. Des mots qui ont touché des milliers d'enseignants venus donc lui rendre hommage. Un hommage qui s'est rapidement transformé en cri de colère, Mathieu Bock.
Oui, massés dans les petites rues étroites autour du siège de l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis, ils sont venus de toute l'Île-de-France pour se soutenir mutuellement. Sur un banc transformé en tribune pour l'occasion, des collègues de Christine Renon se passent le micro.
Un message personnel, puisque les obsèques de Christine étaient ce matin, son frère nous demande de dire aujourd'hui « Non, Christine n'était pas fragile. Non, Christine n'était pas dépressive, mais énergique. Ils nous l'ont détruite. » Son geste ne doit pas être vain, il appelle à poursuivre la mobilisation.
Laurence est professeure des écoles à Paris, elle écoute les discours en tenant à la main un bouquet de fleurs sur lequel elle a fait inscrire quelques mots.
On est tous et toutes Christine Renon, parce qu'on est sous pression de l'institution de manière permanente, particulièrement les directeurs et les directrices d'école, et Christine Renaud en était une. L'institution applique un management infernal. Par ailleurs, quand il y a des vrais problèmes, on se sent aussi un peu seul. Donc oui, aujourd'hui, je pense que tous et toutes, on se sent un peu Christine Renaud, oui, c'est clair.
Avant de se disperser, ces enseignants se sont donné rendez-vous samedi matin pour une marche blanche entre la mairie de Pantin et l'école maternelle où la directrice s'est donné la mort.
Mathieu Bock aux côtés des enseignants à Bobigny pour Europe 1. Et ce soir, Jean-Michel Blanquer a choisi Europe 1 pour répondre à cette colère. Le ministre de l'Éducation annonce la création d'un comité de suivi et il promet d'améliorer la situation des directeurs d'école. À Rouen, les opérations de pompage sur le site Lubrizol vont durer plusieurs semaines encore. C'est ce qu'annonce le préfet de Seine-Maritime qui parle de pompage massif. Des brumisateurs ont par ailleurs été installés pour limiter le plus possible les odeurs. Le PDG d'Habitat annonce que des fermetures de magasins sont à prévoir en France dans les prochains mois. L'enseigne d'ameublement en difficulté depuis un certain temps a en effet été mise en vente par sa maison mère. General Electric, lui, semble prêt à adoucir le plan social qui va frapper l'usine de Belfort. La direction se dit prête à envisager de conserver jusqu'à 150 postes sur les 792 départs initialement prévus. La croissance française va continuer de résister jusqu'à la fin de l'année. C'est l'INSEE qui le dit, toujours porté par les mesures de soutien au pouvoir d'achat et la baisse du chômage. Le PIB, le produit intérieur brut de la France, devrait augmenter de 0,3% au troisième trimestre ainsi qu'au quatrième, pour terminer en hausse de 1,3% sur l'ensemble de l'année 2019. Prévision toutefois inférieure au 1,4% attendu par le gouvernement. Pas question de laisser Washington frapper l'économie européenne sans réagir. À Paris comme à Bruxelles, on s'active pour contre-attaquer après que Washington a annoncé son intention de frapper de tarifs douaniers punitifs 7,5 milliards de dollars de produits européens, des denrées comme le vin, le fromage, les olives ou encore le café qui seront taxés de 25% supplémentaires. L'inquiétude grandit, notamment celle des viticulteurs. Écoutez Antoine Leccia, il est président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux.
On va se retrouver avec des hausses de prix auprès du consommateur qui vont être de l'ordre d'un tiers en moyenne. Et donc immédiatement sur des vins qui vont être des vins inférieurs à 30 dollars aujourd'hui, ça va passer des barrières psychologiques et ça veut dire des baisses des ventes. Je pense que sur des vins de 15 à 25 dollars, ça peut aller jusqu'à 50%. Et pourquoi ? Parce qu'une partie des vins, comme les vins de cépage, sont des vins qui sont assez faciles à substituer. Au lieu d'acheter des vins de cépage français, on achètera des vins de cépage chiliens ou des vins de cépage australiens. Parce que l'impact de prix peut être rapidement rédhibitoire pour certains consommateurs. Donc notre inquiétude, elle est là. On n'a rien à voir avec ça. Il n'est pas normal de taxer nos produits. Donc on déplore tout ça.
Le président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux au micro européen d'Élise Dangean. Les avions en provenance de l'Union européenne verront quant à eux leurs droits de douane augmenter de 10%. Cette décision américaine s'appuie sur le jugement de l'Organisation mondiale du commerce concernant les subventions européennes versées à Airbus. Le gouvernement espagnol a annoncé aujourd'hui un plan d'environ 300 millions d'euros afin d'aider le secteur touristique face aux effets de la faillite du voyagiste britannique Thomas Cook, dont l'Espagne était l'une des principales destinations. Et puis les sports avec les mondiaux d'athlétisme de Doha et il abandonne. Kevin Mayer, tenant du titre du décathlon, a dû déclarer forfait au moment de l'épreuve, au moment où il devait franchir une barre à la perche. Et c'est une cruelle désillusion. Corinne Boulot, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Doha.
Eh bien, les signaux d'alerte se sont enclenchés dès hier. Touché au genou droit, puis au tendon d'Achille gauche, impossible dans ces conditions de s'exprimer et de disputer ce décathlon complètement libéré. Alors, nous avions vu hier un Kevin Mayer grimaçant de douleur. Après avoir réussi à surmonter ses douleurs, il débute le concours de perche ce soir en tête du classement provisoire. Il tente de s'élancer et soudain, plus de course d'élan, plus rien que des larmes de désespoir. Kevin Mayer a compris que son rêve de doubler s'évaporait dans le ciel de Doha avec cet abandon.
La déception est énorme. Il faut que j'accepte la défaite. C'est des moments difficiles parce que c'est pas comme un joueur de tennis qui fait des tournois tous les mois. J'ai un décathlon dans l'année. Voilà. Et suffit que je fasse une erreur ou que j'ai une douleur et tout le rêve peut s'arrêter totalement et ça peut devenir un enfer. Ce décathlon était un enfer, honnêtement.
Et maintenant, comme l'an passé, après le couac des championnats d'Europe de Berlin, Kevin Mayer va devoir rebondir et digérer cette déception. En échouant ici, il doit maintenant obtenir sa qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.
pauvre Kevin Mayer. Merci Corinne Boulou, envoyée spéciale d'Europe 1 au Qatar, à Doha. Et puis en foot, deux clubs français engagés ce soir en Ligue Europa. Saint-Etienne et Wolfsburg se sont quittés tout à l'heure sur un match nul, un but partout. Depuis près d'une heure maintenant, Rennes joue sur le terrain de la Lazio de Rome et ce sont les Bretons qui mènent pour l'instant 1-0. On connaît la liste des Bleus, retenue par Didier Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France de foot, avec le retour de Kylian Mbappé pour le déplacement en Islande à la fin de la semaine prochaine, puis contre la Turquie. Steve Mandanda rappelé également, tout comme Jonathan Ikoné, mais ce sera encore sans Paul Pogba. Le sélectionneur du 15 de France, Jacques Brunel, va lui devoir composer avec deux forfaits. L'arrière Thomas Ramos et le talonneur Peato Movaca qui sont blessés. Les deux joueurs seront donc absents pour le reste de la Coupe du Monde. Et puis un tableau de Banksy, le Parlement des singes, a été adjugé ce soir. 11,1 millions d'euros chez Sotheby's. C'est un record pour l'artiste aux enchères. Peinture qui représente le Parlement britannique peuplé de primates. Tableau symbolique, donc à quelques semaines du Brexit, Banksy, dont on ignore toujours la véritable identité. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Valérie Darmon. Alors pour demain, ce sera pluvieux du sud-ouest au nord-est, mais on parle de petites pluies. Hein.
Absolument Isabelle, et des pluies faibles mais continues circulent demain matin sur le Grand Est et sur la Franche-Comté. Sur l'ouest et le centre de la France, le ciel est plus variable, plus bas aussi, plus couvert, plus gris et plus humide, de la Normandie à la Bourgogne et à l'Auvergne. Sur le sud-ouest, le ciel est couvert le matin avec quelques gouttes, plus variable l'après-midi avec le retour des éclaircies. Il restera bouché uniquement près des Pyrénées avec de petites bruines ici ou là. Et en allant vers la Méditerranée et les Alpes du Sud, là le ciel est de plus en plus lumineux. Les minimales oscilleront entre 4 et 9 degrés sur le nord et dans l'est, 9 à 16 sur l'ouest et près de la Méditerranée. Les maximales entre 14 et 19 sur la moitié nord, entre 18 et 21 sur un bon quart sud-ouest et 21 à 26 sur les régions méditerranéennes. Il fera moins froid ce vendredi qu'aujourd'hui.
La météo signée Valérie Darmon. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Lydia Maud de boursier.com. Juste avant l'invité Echo, Maud Descamps reçoit ce soir le directeur général de Rossignol, Bruno Cerclet, Rossignol, leader mondial du ski. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h17, merci de côté Europe 1. Comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Didier Amo, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui retrouve des couleurs à la clôture ce soir.
Oui, une séance pourtant mouvementée, nerveuse, pour finalement terminer en hausse. Nette hausse même, en particulier pour les valeurs de technologie. Le Nasdaq gagne 1,12% et rebondit à 7872 points. Le Dow Jones regagne 0,47%, 26 201 points. Les indicateurs de conjoncture américains confirment les uns après les autres le ralentissement économique aux États-Unis, de quoi alimenter les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale fin octobre. Ça donne des rebonds sur les valeurs de technologie, donc Apple plus 0,8%, c'est pas très spectaculaire, hein. Microsoft plus 1,2%, Amazon plus 0,6%, IBM plus 0,2%. Tesla, en revanche, recule de 4,1%, encore chahuté, 233 dollars, le fabricant de voitures électriques a annoncé des ventes décevantes au troisième trimestre. Et puis GoPro, le fabricant de caméras embarquées, a chuté carrément de 19%.
Ah oui.
4,16 $, c'est pas beaucoup. Hein. Après une révision en baisse de ses prévisions de résultats, des comptes donc très décevants pour GoPro. Sur le pétrole, on reste discuté sur le baril, 57 $. L'euro campe à 1,0970, sans changement donc sous les indices face au billet vert.
Et la Bourse de Paris a aussi regagné un petit peu de terrain après deux séances de forte baisse.
Plus 0,3%, une petite hausse, ça va mieux. On souffle un petit peu, effectivement, 5 439 points sur le CAC 40 après une chute de quand même de 4,5% en deux séances. Hein. C'était quand même assez lourd. Sur fond de crainte de récession, quelques grandes valeurs ont quand même rebondi aujourd'hui, à commencer par Airbus qui reprend 4%, un peu plus même, 4,2%. Le groupe aéronautique pourrait passer entre les gouttes de la guerre commerciale internationale, vous en parliez tout à l'heure, avec un impact finalement modéré des droits de douane aux États-Unis sur ses comptes. Et puis aussi, Rémi Cointreau et Pernod Ricard ne sont finalement que peu concernés par ces mesures américaines. Et donc Rémi Cointreau remonte de 6,4% et Pernod de 4,2%. À noter CAFOM, qui veut se séparer de sa filiale Habitat en difficulté. CAFOM, donc, du coup, reprend 13% ce soir à la clôture.
Et puis, exception du jour, Didier, le titre Saint-Gobain qui recule encore.
Moins 1,8%, oui, ça ne va pas très bien. 34,30 € pour le groupe Verrier. Le broker Jefferies ne vise plus qu'un cours de 30 € sur Saint-Gobain. dans l'attente de comptes du troisième trimestre qui ne devrait pas faire d'étincelles. Saint-Gobain en baisse d'1,8% ce soir. Sur les autres places financières, c'est très partagé. Bruxelles monte de 0,2%, Madrid moins 0,1%, Milan plus 0,06%, Londres moins 0,6%. Le CAC 40 donc en hausse ce soir de 0,3%, 5 439 points.
Merci pour ce tour d'horizon. Didier Hamot de boursier.com, vous aimez le foot Didier ?
Oui.
Et bien sachez que la Lazio vient d'égaliser face à Rennes en Ligue Europa, un but partout. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité Écho, Maud Descamps. Vous recevez ce soir le président, directeur général de Rossignol.
Bonsoir Bruno Cerclet.
Bonsoir.
Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président, directeur général de Rossignol. C'est tout simplement le numéro 1 mondial de l'équipement de sport d'hiver. Vous ouvrez de plus en plus de boutiques. Vous venez de vous implanter sur le marché américain avec une nouvelle boutique dans la très célèbre et très chic station de ski de Daspen. Vous allez prochainement ouvrir une boutique à New York. La marque va également ouvrir 3 boutiques en Chine. Vous en avez aussi ouvert récemment à Paris. Dans vos boutiques, on trouve évidemment des skis, mais aussi des vêtements qui peuvent se porter bien au-delà hein, des pistes de ski. Toutes ces ouvertures, c'est pour devenir ce qu'on appelle une marque globale.
Rossignol fait des skis depuis 110 ans. On a une position effectivement de leader mondial avec la marque Rossignol. Ça veut dire qu'on est connu dans toutes les montagnes du monde entier. Tous les gens qui ont fait un petit peu de ski ou qui ont une affinité particulière avec la montagne connaissent Rossignol. Et il nous semble qu'avec ce capital-là, cette marque-là, connue dans le monde entier, il y a vraiment une opportunité pour l'utiliser, pour supporter un développement sur des produits qui sont un peu plus accessibles tous les jours et un peu plus accessibles tous les jours également en ville. Donc c'est la stratégie qu'on est en train de mener. En prenant toujours un axe très technologique, on est toujours parti des produits, de la technologie.
Est-ce qu'il y a de la place pour une marque française ? Est-ce que c'est un peu comme pour le luxe ou le fait d'être une marque française ? C'est un petit plus, je pense notamment peut-être au marché chinois, au marché russe peut-être, qui peut être aussi un axe de développement pour vous ?
Nous, on n'est pas une marque de luxe, hein, on n'est pas une marque de sport standard non plus. On se définit plutôt comme une marque sport chic, certains diraient, dans certains pays. Quand on met le coq sur nos produits, bleu, blanc, rouge, qui est identifié depuis des dizaines d'années, puisque dans les premiers skis de Rossignol, Rossignol mettait ce petit coq sur les spatules. Encore une fois, ça aussi, c'est un actif très fort de la marque. Et il y a un message de design français, d'élégance, de chic, de mode de vie dans les stations, etc., dans lequel beaucoup de gens se reconnaissent.
Oui, ça marche du coup avec une clientèle chinoise, par exemple ?
Et ça, on pense que ça va marcher avec une clientèle chinoise qui ne connaît pas encore bien le ski et qui ne connaît pas encore bien Rossignol. Ceci dit, les Jeux Olympiques arrivent à Pékin en 2022, donc ça va être un moment très fort pour les Chinois. Le gouvernement chinois veut mettre la population au sport, et donc au sport d'hiver, et donc au ski l'hiver. Donc il nous semble tout naturel d'accompagner cette démarche, de faire notre métier qu'on fait depuis des dizaines d'années dans d'autres pays, également dans les stations chinoises, et d'en profiter pour nous faire connaître aussi en ville.
Vous évoquiez justement les JO de Pékin, votre développement en Chine, le calendrier n'est pas anodin, hein, puisqu'il y a ces JO en 2022. Pour vous, ça va être un gros marché, la Chine, c'est-à-dire que le ski se démocratise vraiment là-bas ?
Oui, il y a des investissements très très importants aujourd'hui dans les montagnes autour de Pékin. Le gouvernement annonce des objectifs de 300 millions de skieurs dans la neige d'ici 10 ans en Chine. Même si c'était 100 millions, ça représenterait dans 5-6 ans 20% du marché mondial. Donc c'est important.
100 millions de skieurs ou 300 millions par rapport à ce qu'on peut trouver dans les Alpes, ça serait beaucoup ?
Alors aujourd'hui, le marché mondial du ski, on compte ça en nombre de journées skieurs, c'est 350 millions. En France, c'est 55 millions. En Autriche, c'est 55 millions. Aux États-Unis, c'est 55 millions. Qui sont les 3 grands pays de ski.
Le matériel de ski, ça reste quand même votre principale source de revenus aujourd'hui. Mais vous cherchez quand même à équilibrer. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, c'est-à-dire qu'on est très saisonnier avec l'activité de matériel d'hiver. C'est 70% de notre chiffre d'affaires. Il ne faut pas s'en contenter. Il faut aller chercher des activités qui puissent fonctionner toute l'année. C'est le cas des vêtements, puisqu'on a attaqué nos collections par des collections hiver, mais petit à petit, on vient sur le printemps, l'automne, l'été, et également des activités outdoor au sens large, Que fait-on dans la montagne en été? Mais on fait souvent du vélo, donc on est parti dans le vélo.
On sait qu'avec le réchauffement climatique, on va peut-être de moins en moins skier dans les Alpes. On le voit déjà avec des stations qui manquent de neige parfois. Comment vous percevez cet avenir?
Alors ça, c'est effectivement un vaste sujet. Aujourd'hui, Rossignol exporte à 80%, donc on est présent dans tous les pays dans le monde, notamment de montagne depuis très longtemps. Je pense que le problème potentiel de réchauffement climatique et de manque de neige, il est réel. On voit des évolutions très fortes quand on voit les glaciers aujourd'hui, la fonte des glaciers notamment en Europe. Ça pose vraiment problème. Ceci dit, les stations, depuis quelques années maintenant, se sont équipées en enneigement artificiel. Elles se sont équipées en liaison avec les domaines de plus haute altitude. Et en fait, sur les 20 dernières années, où on a vu des évolutions du climat de façon indéniable dans les stations, on a une fréquentation globalement qui est tout à fait stable dans le monde et qui va probablement monter avec la Chine. Donc, je pense que le sujet du climat est un vrai sujet pour nous à moyen terme. Je pense que dans les toutes prochaines années, on ne voit pas d'impact aujourd'hui.
Un dernier mot, Bruno Cerclet, comment se présente la saison qui va commencer là dans quelques semaines?
Écoutez, une nouvelle fois, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, on va regarder vers le ciel tous les matins, voir si la neige arrive. C'est ce qui fait vraiment énormément la qualité d'une saison. On a eu de très bonnes saisons l'année dernière, en l'occurrence. En France, c'était plutôt moyen, mais dans les autres zones du monde, ça a été vraiment très très fort. Ceci dit, on est bien positionné, nos marques sont demandées et on va être très intéressé de voir l'évolution de nos boutiques, les ouvertures et comment les consommateurs dans les différents pays vont réagir à notre offre.
Merci beaucoup Bruno Cerclet d'avoir répondu à l'invitation d'Europe 1. L'interview Éco revient demain à 22h15.
Merci beaucoup à vous Maud Descamps. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Attaque à la préfecture, la police touchée au cœur, titre Libération, qui revient longuement sur ce drame à la mi-journée. Ces quatre policiers poignardés dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris. Attaque mortelle, l'émotion et les questions pour le Figaro, qui rappelle que pour l'instant, aucune piste n'est écartée. Tim Cook est à la une des Échos, une interview exclusive du patron d'Apple qui aborde tous les sujets, guerre commerciale, impôts, inégalités dans le monde, streaming, vente d'iPhone. Pas touche à mon vin, à mes fromages et à mon whisky, sinon gare à tes Harley Davidson, ton bourbon et tes jeans, écrit Florence Chédotal dans le journal La Montagne. Ce sera œil pour œil, dent pour dent et sueur froide. Donc si on pouvait s'arranger à l'amiable, ce serait mieux pour tout le monde. On en est là entre l'Union européenne et les États-Unis, à qui l'OMC vient de donner des billes pour passer de menace à exécution. Alors que la Chine redouble d'ardeur conquérante, ce nouveau front ouvert dans la guerre commerciale mondiale vient renforcer dangereusement l'instabilité. Voilà surtout un jeu sans fin dont il se peut que personne ne sorte vainqueur. Le protectionnisme se répercutant à moyen terme sur le pays, croyant se protéger des vents contraires. Dans une économie globalisée, l'effet boomerang peut faire mal. Municipal, le retour de la politique, point d'interrogation, s'interroge l'humanité. L'échéance électorale dans moins de 6 mois peut être le bon espace pour réconcilier citoyens et politiques. Et puis bioéthique, pourquoi il manifeste, titre le journal La Croix, qui rappelle que les opposants à la révision de la loi de bioéthique appellent à la mobilisation à Paris ce dimanche. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Elle sera excellente forcément puisque vous êtes en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Et à tout à l'heure.
À tout à l'heure, 23h.